Europe 1. De 9h à 10h sur Europe 1, vous retrouvez Patrick Cohen avec C'est arrivé demain.
Bonjour Alain Fischer. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour.
Oui, je vous entends.
Bonjour professeur. Bonjour. Professeur d'immunologie pédiatrique. Vous avez mené une double carrière de médecin et de chercheur, médecin et chef de service à l'hôpital Necker Enfants Malades, chercheur à l'INSERM, puis fondateur de l'Institut Imagine, dédié aux maladies génétiques rares que vous avez dirigé jusqu'en 2016. On vous doit les premiers succès de la thérapie génique sur ce qu'on appelle les enfants bulles. Alain Fischer, vous avez prononcé il y a 3 jours votre leçon de clôture au Collège de France, où vous occupiez depuis 7 ans la chaire de médecine expérimentale, leçon consacrée au Covid-19, c'est une synthèse remarquable sur les connaissances de cette maladie et de la réponse immunitaire. La vidéo est en ligne sur le site du Collège de France. Est-ce qu'il reste beaucoup à découvrir aujourd'hui? Par exemple, est-ce qu'on commence à comprendre pourquoi ce virus frappe de façon aussi hétérogène, parfois de façon si différente, deux individus du même âge et du même état de santé?
Alors oui, bien sûr, il reste beaucoup à découvrir, mais en même temps, il faut remarquer qu'en quelques mois, 6 mois à peine, des progrès, des connaissances extraordinaires ont été obtenus par de nombreuses équipes de par le monde. Donc, à juste titre, comme vous le dites, cette maladie frappe de façon très hétérogène, comme vous le savez, elle frappe essentiellement les personnes âgées. C'est d'abord une maladie des personnes âgées, plus des hommes que des femmes, et puis ensuite les personnes qui ont, comme on le dit, des comorbidités, maladies cardiaques, diabète, surpoids, par exemple. Mais il reste encore une susceptibilité individuelle, peut-être en partie génétique, une génétique qui peut être héréditaire, une génétique qui peut être acquise. Bref, il y a beaucoup de mécanismes possibles qui entrent en ligne de compte et on est loin de tout comprendre aujourd'hui.
Dans votre leçon au Collège de France, vous avez fait remarquer à partir de données britanniques, qu'on n'a pas d'ailleurs en France, parce qu'on n'a pas de données sociales sur les malades du Covid, que cette maladie avait frappé d'abord les plus pauvres, les catégories les plus pauvres.
C'est sûr, en tous les cas, ce sont eux qui sont les principales victimes. Les données britanniques qui ont été publiées il y a quelques semaines l'indiquent de façon très très claire, parce que ce sont des personnes qui vivent dans des situations plus précaires et donc une plus grande promiscuité qui augmente le risque d'infection, qui occupent souvent des professions très exposées socialement, donc à nouveau qui augmente le risque d'infection. Des personnes qui souvent sont malades pour d'autres raisons, sont en surpoids ou un diabète ou des facteurs de risque de consommation de substances toxiques et puis qui vont moins chez le médecin, qui sont moins directement en première ligne avec le monde médical. Alors, c'est très clair en Grande-Bretagne, c'est sûrement vrai en France même si on a moins de données et peut-être une distinction sociale légèrement moins marquée en France, mais malheureusement c'est une maladie des personnes âgées et une maladie des personnes âgées en situation précaire.
La connaissance scientifique a avancé de façon fulgurante, vous l'avez rappelé, en seulement quelques mois. Pourtant, une partie du grand public garde de la période une image dégradée de la science parce que les affirmations d'un jour n'étaient pas celles du lendemain et que la science était loin de parler d'une seule voix. Est-ce que c'est injuste? Est-ce que certains scientifiques ont été fautifs? Ou est-ce qu'il y a dans l'opinion un manque de culture scientifique?
Alors, à mon avis, il y a 2 choses à dire. La première, et que je considère comme positive, est le fait que, de façon très claire, le pouvoir s'est associé à un groupe de réflexion d'experts qu'il a consulté et qui, ce groupe s'est exprimé au moins à travers son président, Jean-François Delfraissy, et cela, à mon avis, sans ambiguïté, c'est-à-dire que ces experts avaient un rôle consultatif et en rien décisionnel. Et pour le système français, je pense que c'est une avancée où il est rare que la place des experts soit reconnue de façon aussi claire pour conseiller les politiques, donc qui ont à prendre des décisions. Donc ça, à mon avis, c'est une vision positive et qui restera.
Ce conseil scientifique n'avait pas la légitimité des autorités installées de longue date, comme en Allemagne avec l'Institut Robert Koch.
C'est différent, mais peu importe. Je pense que cela, à mon avis, est assez secondaire. Il avait une légitimité à partir du moment où il a été mis en place donc par le président de la République, en l'occurrence. Son rôle a été clairement défini et je pense que les Français, en tant que citoyens, ont perçu que ce comité a servi de conseil, continue encore un tout petit peu pour quelques jours, je crois, Et ça, c'est positif. Ce qui est moins positif, évidemment, c'est qu'ensuite, comme on l'a déjà observé dans le passé, quelques médecins, quelques scientifiques se sont exprimés d'une façon justement non scientifique, ont perdu un tout petit peu la raison et que ensuite se crée une espèce d'alliance avec un cercle vicieux qui ne va pas dans le bon sens pour ce qui est d'éclairer les citoyens entre les médias qui aiment bien reprendre des déclarations un peu extravagantes et parfois des hommes politiques qui s'en saisissent aussi parce qu'ils pensent que ça peut aider tel ou tel aspect de leur renommée. Et donc on entre dans une forme de populisme médical et scientifique et nous en avons eu des exemples et ça évidemment c'est difficile à suivre, c'est plus que regrettable, c'est condamnable parce que cela crée la confusion. D'abord la confusion dans l'attitude personnelle de chacun et une confusion autour de ce que doit être la place de la science. On voit bien que celle-ci est importante face à un problème quel qu'il soit. Nous vivons une crise dans le domaine de la santé, mais bien sûr il y a des questions dans d'autres domaines. Et la science, c'est la façon d'avancer dans la connaissance et cette connaissance doit aider toutes les décisions les plus difficiles possibles. Et là, effectivement, sur ce plan, nous vivons une période difficile.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est s'exprimer de façon non scientifique, comme vous l'avez dit? Qu'est-ce que ça signifie?
La science est une combinaison de se fonder sur les faits, sur l'analyse critique des faits, sur le fait d'émettre des doutes et d'être soumis à l'analyse critique à chaque fois que nécessaire. C'est ainsi que la science avance. Et donc nous, scientifiques et médecins, devons, lorsque nous sommes amenés à nous exprimer en public, à donner les faits et les incertitudes lorsqu'il y en a, et non pas affirmer des éléments qui ne sont pas établis. Et on a vu des exemples à travers les discussions sur les thérapeutiques du Covid, de prise de position que je qualifie de non scientifique.
Ça veut dire que l'autorité, l'expérience, la liste des titres universitaires ne suffit pas à émettre des affirmations ou ce qui est présenté comme des vérités scientifiques.
Non, je pense que la carte de visite ne suffit pas. Ce qui compte, c'est le moment présent. On a vu dans le passé de très très grands scientifiques. Je cherchais un exemple aux États-Unis, un très grand spécialiste de la biologie moléculaire, donc des aspects les plus fondamentaux de la biologie, défendre l'idée que le virus du sida n'était pas responsable du sida. Donc c'est pas parce que ce monsieur, qui s'appelait Duisberg, avait été un très grand scientifique que à tout moment il émettait des informations qui étaient valides. Donc malheureusement la carte de visite ne suffit pas, il faut pas avoir confiance uniquement sur le passé. On sait et l'histoire est pleine de ce genre de dérives d'observations de gens de qualité qui à un moment ou à un autre s'expriment d'une façon non fondée, non rationnelle, donc qui entrent dans le domaine des fausses nouvelles. C'est pas toujours facile de faire la part des choses. Je pense que les journalistes ont une responsabilité par la nécessité de croiser, par exemple, les informations pour limiter au maximum la diffusion de fausses nouvelles.
Et le bilan aujourd'hui, la controverse sur l'hydroxychloroquine a fait beaucoup de tort à la recherche médicale et à l'image de la science ?
Je pense qu'elle a fait du tort parce que malheureusement cette controverse est devenue médiatiquement extrêmement présente et encore une fois reprise aussi par des hommes politiques qui, c'est un peu surprenant, avaient une opinion scientifique ou médicale, donner des conseils sur ce qu'il fallait faire ou pas. Oui, ça donne du tort parce que ça crée le trouble et que quelqu'un qui n'a pas directement accès aux informations peut se poser des questions sur ce qu'il en est réellement. Du tort d'une autre façon, par exemple, par la difficulté de faire en sorte que les personnes susceptibles d'entrer dans des essais thérapeutiques contrôlés, bien réalisés, avec tirage au sort, sont la seule façon de faire avancer les connaissances en thérapeutique, c'est ainsi que les choses ont progressé pour beaucoup de maladies au cours de ces 10 dernières années, et bien beaucoup de personnes ont refusé d'entrer dans des essais thérapeutiques parce qu'ils considéraient qu'ils devaient recevoir ce médicament, l'hydroxychloroquine, et non pas accepter une incertitude autour d'un essai thérapeutique, ce qui est dommageable parce que, encore une fois, seuls les essais thérapeutiques permettent d'avancer.
Vous vous êtes beaucoup engagé, Alain Fischer, contre la propagation des fausses nouvelles en science. Il va vous falloir remettre ça dans quelques mois à propos du vaccin, quand il sera au point, et à propos de la défiance déjà manifestée par de nombreux Français.
Alors le vaccin est d'abord, il faut dire une chose, une affaire scientifiquement non terminée, loin de là.
Bien sûr. La
mise au point d'un vaccin prend beaucoup de temps. On a entendu beaucoup d'annonces, en particulier Monsieur Trump par exemple, nous dire que nous aurons dans très peu de temps un vaccin. J'aimerais que cela soit vrai, mais il y a énormément d'incertitudes, beaucoup de recherches en cours, ce qui est évidemment une bonne chose, avec des approches différentes, ce qui est à nouveau une bonne chose, mais beaucoup d'incertitudes sur le moment auquel un vaccin sera, ou plusieurs vaccins, espérons-le, seront mis au point. À ce stade-là, effectivement, entreront en discussion un certain nombre de points sur qui bénéficiera d'un vaccin, etc. Et puis, il faudra sans doute, mais il faut le faire dès maintenant, bien sûr, à nouveau essayer d'informer convenablement sur ce qu'est un vaccin, sur l'importance de la vaccination et combattre des fausses nouvelles qu'on a déjà beaucoup entendues depuis 200 ans, à vrai dire, hein, depuis que les vaccins existent. Et donc, ce combat-là va être sérieux puisqu'il en va de la santé de nos populations et à nouveau, d'ailleurs, des personnes les plus fragiles.
Une dernière question, Alain Fischer, sur l'immunité. On ne peut pas rattraper la maladie après avoir été une première fois infecté. C'est maintenant établi ou il y a encore des zones d'incertitude sur l'immunité?
Il y a une petite zone d'incertitude. Ce que l'on sait, c'est que toutes les personnes infectées développent des anticorps, développent des réponses aussi de ce qu'on appelle des lymphocytes T. Donc au moins à court terme, ces anticorps, ceux que l'on appelle les anticorps neutralisants, doivent prévenir une nouvelle infection. On n'en a pas une certitude absolue parce que ces observations d'une seconde infection n'ont pas été authentifiées. Ce qu'on peut dire, c'est que sur un plan expérimental, dans des modèles animaux, une première infection, par exemple de singe, rhésus, macaque, protège contre une seconde infection. Donc il est probable qu'effectivement l'immunité évite de faire deux fois la maladie, en tous les cas, dans les mois qui suivent.
Merci beaucoup Alain Fischer, professeur d'immunologie pédiatrique. On vous lit régulièrement dans les colonnes de l'Express et votre leçon de clôture au Collège de France est à voir en ligne. Merci à vous.
Merci.